Radio Spirale. À l'automne 2010, les éditions Gallimard faisaient paraître les œuvres romanesques complètes de Boris Vian dans la prestigieuse collection de la Pléiade. Robert Lévesque s'est entretenu avec Marc Lapran, le responsable de l'édition, à l'occasion de son passage à Montréal à la librairie Gallimard.
Bon, alors, on va commencer. On n'est pas là pour se faire engueuler, comme dit Boris Vian, mais vous êtes quand même là pour écouter, je pense. Alors, je vous présente Marc Lapran, que vous connaissez déjà, qui est ici parce qu'il a dirigé l'édition des œuvres romanesques de Boris Vian dans la Pléiade. Mais je dois dire d'abord que, après avoir entendu la horde vocale dans leur excellent récital, je me suis rendu compte, en tout cas pour moi, que je me souvenais presque complètement des paroles de toutes ces chansons-là. Je n'écoute pas régulièrement maintenant le long jeu de Boris Vian, mais je me rends compte que je l'ai tellement écouté, comme probablement bien des gens de ma génération, que toutes ces paroles-là nous reviennent, que ça revient, c'était vraiment... Et je dois dire qu'ici, particulièrement au Québec, puisque nous sommes à Montréal, Pauline Julien a interprété des chansons de Boris Vian, en particulier « Fais-moi mal, Johnny », qu'elle interprétait de façon magnifique, extraordinaire. Et il faut dire aussi que la chanson, ici, a probablement été la particularité de Boris Vian, là où il s'est fait le plus connaître ici, en tout cas dans les années 60. C'est après ce fameux long jeu, les chansons possibles et impossibles. Et ici, au Québec, dans les années 60, c'était une décennie de la chanson. Je vous parlais de Pauline Julien, il y avait de grandes interprètes, il y avait évidemment bon Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Robert Charlebois qui allait commencer vers les fins des années 60. Et ici, Boris Vian, au niveau de la chanson, a eu un impact terrible. Beaucoup de gens l'ont interprété, je parlais de Pauline Julien, et donc il y a ça, parce qu'au théâtre, ici, je n'ai trouvé qu'une seule production, sauf la toute récente que Carl Bouchard lui-même, qui est ici et qui va lire des poèmes tout à l'heure, a dirigé. C'est un montage et Vian dans la gueule. Mais j'ai trouvé qu'en 1964, l'une des deux seules compagnies qu'on appelait d'avant-garde à l'époque, les Saltimbanques, avait monté l'Écarissage pour tous. En 64 quand même, à peine 4-5 ans après la mort de Boris Vian. Mais par la suite, bon, parlant théâtre, je fais une petite parenthèse parce que j'ai exercé le métier de critique théâtrale longtemps, le pauvre Boris a été un peu mis dans l'ombre à cause qu'au même moment arrivait Ionesco, arrivait Genet, arrivait Beckett, bon, etc. Et donc ici, le théâtre de Vian n'a pas vraiment été joué, sauf qu'on constate que maintenant, là, il y a le travail de la horde vocale, il y a ce qu'a fait Carl Bouchard, et il y a aussi, m'a-t-on dit, j'ai appris qu'une compagnie de Sherbrooke, qui a été créée il y a quelques années, 3-4 ans, qui s'appelle les Turcs Gobeurs d'Opium, je pense que, je ne sais pas s'ils ont pris l'expression chez Boris Vian, mais il aurait apprécié, je pense, et qu'ils ont monté les Bâtisseurs d'Empire et qu'ils vont venir les jouer à Montréal, paraît-il, l'an prochain. Avant de vous passer la parole, je vais vous dire aussi, j'aimerais, s'agissant toujours de Montréal et du Québec et de Boris Vian, placer peut-être la rencontre d'aujourd'hui à la mémoire de quelqu'un que plusieurs ici qui ont mon âge l'ont connu, Patrick Straham. Patrick Straham, qui est exactement le déserteur, qui est arrivé ici en 54, après avoir fui la France, parce que, à cause du service militaire et tout ça, qui a voulu échapper, et qui est venu ici, et le déserteur était sa chanson. Et Patrick Straham était un artiste de très grande valeur, un moderne, si vous voulez, qui arrivait ici dans les années 60, qui a fondé le cinéma, l'Élysée, qui a fait beaucoup pour le cinéma d'auteur, qui a écrit lui-même, qui était un grand ami de Pauline Julien et tout, et Patrick Straham, qui avait même pris le même surnom, le Bison Ravi. Il signait ses textes le Bison Ravi, sans vergogne, sans
d'ailleurs, gêne. Il avait demandé une autorisation officielle qu'on lui avait donnée, d'ailleurs. Il fallait qu'il ait l'autorisation,
j'imagine,
pour une question de droit moral. Ah, ouais. Mm-hmm.
Alors, fermons la parenthèse, je voulais simplement rappeler au souvenir quelqu'un ici qui a été un des propagateurs de l'œuvre de Vian. Alors, Marc Lapran, vous êtes un spécialiste. Si je regarde ce que vous avez écrit, je retrouve plusieurs ouvrages. Boris Vian, La vie contre, en 1993, déjà vous vous y intéressiez. V comme Vian, aux presses de l'Université Laval, que vous avez publié en 2007. Vous avez été celui qui a dirigé les œuvres complètes chez Fayard, en 15 volumes.
Co-dirigé.
Co-dirigé, c'est ça, en 15 volumes dans les années 99-2003.
Ça, c'était pour se chauffer pour la Pléiade.
Ben, j'imagine, c'est ce que j'allais vous demander.
C'était un échauffement.
Ben, c'est ça, je vous demanderai des précisions entre les deux éditions.
Je suis
Vous avez fait aussi, Si j'étais poéteux, le titre du Découverte Gallimard. Et maintenant.
Avec François Ruhlmann.
Oui, c'est ça. Et maintenant, la Pléiade avec deux collègues, dont les noms sont.
Christelle Gonzalo, François Ruhlmann.
Voilà, c'est ça.
Sur la couverture.
Donc on peut dire que vous êtes tout sauf biographe pour Boris Vian.
Oui, c'est vrai, oui, oui. Il n'y a qu'à la radio française qu'on me présente comme le biographe de Vian, mais enfin, ils font n'importe quoi de toute façon, donc c'est pas grave.
On va
faire mieux ici.
On va essayer d'être plus strict, plus exigeant.
Voilà.
Vous n'avez pas connu Vian, évidemment, qui est mort en 59, à 39 ans.
Non seulement dans la stratosphère.
Oui, c'est peut-être. Mais comment l'avez-vous rencontré?
Ben, curieusement, le premier livre de Vian que j'ai lu, c'est J'irai cracher sur vos tombes. Donc, ça remue déjà beaucoup.
D'abord, c'est Vernon Sullivan.
Oui, exact. Mais enfin, quand il est ressorti en 73 par Christian Bourgois, il y avait le nom de Vian était beaucoup plus gros que le nom de Sullivan. Donc, et puis, je savais pas tout ce qu'il y avait derrière. Je l'ai découvert petit à petit. Et puis, comme c'était dans les années 70, c'était aussi une très bonne période pour les spectacles de cabaret. Où on montait des spectacles, des fois dans des restaurants, qui combinaient des sketchs, des chansons, des petits poèmes, parce que Vian écrit beaucoup de petits poèmes. Karl Béchard va nous en lire un tout à l'heure qui ne fait que deux vers. Il y a même des monostiques chez Boris Vian. Donc on est dans le cours, donc ça s'adapte très bien à ce genre de choses. Et puis, bien sûr, il y a son humour mordant, décapant, qui dérange aussi. Qui s'adapte bien à ce genre de choses. Et d'ailleurs, on en a eu une espèce de d'aura avec ce qu'a fait la Horde Vocale tout à l'heure. C'était pas des sketchs, mais il y a toujours au détour d'une phrase un petit quelque chose qui surprend ou qui dérange.
Oui.
Et ça, c'est sa marque de fabrique. Donc, j'ai été très vite séduit par Boris Vian et son œuvre, bien entendu. Et puis, j'ai lu le reste. Et puis, de fil en aiguille, on finit par faire la Pléiade. C'est une espèce de suite logique à des lectures répétées pendant 25 ans. On me dit, Marc Lapran, faites donc la Pléiade. Mais oui, je suis prêt. Donc voilà. Voilà mon équipe. Elle a été faite en une journée. C'est vrai. Faut dire qu'on se connaissait.
Tous les chemins mènent à la Pléiade. On vient.
Oui, oui, oui. Maintenant, la question douloureuse, c'est quelle sera la prochaine Pléiade que je vais faire. Mais j'ai des idées.
On verra.
Oui, oui, on en parlera un autre jour.
Oui, donc, vous commencez par découvrir Vernon Sullivan, en fait. Et donc, vous entrez, j'imagine. C'est assez particulier, parce que normalement, c'est par l'écume des jours que tous les gens commencent à connaître.
Oui, parce que souvent, l'écume des jours, depuis le milieu des années 70, il est souvent au programme scolaire. Oui. Et au Québec aussi. Oui. Donc, c'est la grande porte d'entrée de l'œuvre de Boris Vian. Il faut dire encore aujourd'hui, et c'est quand même assez exceptionnel et un peu douloureux pour les écrivains débutants, c'est que l'écume des jours se vend à peu près à 100 000 exemplaires en poche annuellement. Donc c'est quand même étonnant, hein. Donc, 51 ans après sa mort, enfin, il est inoxydable. Enfin,
je peux vous dire qu'au Québec, je vérifiais il y a deux jours, c'est 10 000 par année ici au Québec actuellement.
Ouais,
C'est beaucoup.
Ouais. Ça respecte à peu près d'ailleurs l'équilibrage des populations entre le Québec et la France, à peu près, quoi.
Maintenant, il y a quand même plusieurs Boris Vian, hein, la chanson, la musique, le roman, la poésie, le théâtre. Mais la multiplicité des Boris Vian, vous a-t-elle fait problème ou
Non, moi je trouve que c'est plutôt très attirant en fait. Ouais. C'est-à-dire que chez Vian, j'aime redire cette chose, c'est que les savoirs ne sont pas compartimentés.
Ouais.
Voilà quelqu'un qui s'intéresse à tout, et donc il n'a pas d'a priori contre au départ. Et puis il y a quelque chose qui peut sembler paradoxal, c'est que il va dire, il va le déclarer, il va même théoriser là-dessus, qu'on peut faire beaucoup de choses tout en étant professionnel dans chaque chose. ce qui ne lui pose pas de problème à lui, puisque bon, il a d'abord une formation d'ingénieur, il est baigné de la culture bourgeoise française des années 20 et 30, donc ça fait qu'il a lu tous les classiques, donc il s'en est vite débarrassé. Il dit lui-même d'ailleurs à l'âge de, je sais plus, c'est ridiculement bas, ça doit être 8 ou 9 ans, j'ai lu tous les grands jusqu'à Maupassant, y compris les Schnock, Racine, Corneille et les autres. C'est lui qui le dit, je le cite. Hein. Donc, finalement, c'est très libérateur. C'est-à-dire qu'à...
Ce qui est bien, c'est qu'il disait que je lis tous les classiques pour m'en débarrasser.
Oui, oui, enfin, c'est pas lui qui dit ça, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que souvent, on est... Je suppose que tous les écrivains qui se mettent à écrire sont à un moment donné, au début, encombrés par le poids de l'histoire littéraire qui les précède. Ça peut être un handicap fabuleux. Alors si on se débarrasse de tout ça très vite, dans le fond, on est vite libéré. Et Vian a soif de liberté. Et ça, c'est quelque chose, c'est un mot très important dans sa vie, dans son œuvre. Et toute son œuvre, en fait, est à contre-courant de tout ce qui domine au moment où il écrit. Donc il se met lui-même dans une espèce de paradoxe, comme s'il savait que, ou comme s'il pressentait que les lecteurs ne sont pas encore prêts. Quand il a écrit L'écume des jours en 1946, les gens n'ont pas compris en fait. Quand il a joué L'écarissage pour tous en avril 50, les gens se demandaient d'où venait cette pièce inattendue. Et donc, il était mu par cette, animé par cette pulsion d'écriture et de création et de découverte, mais jamais pour plaire à un auditoire ou pour plaire à un public ou il n'était pas, je ne citerai personne, mais j'ai plein de noms qui me viennent en tête, pour au bon moment, pour avoir un Goncourt, par exemple, ou ce genre de choses.
Il n'était pas dans ce genre de calcul.
Non, pas du tout, non. Et en fait, c'est prouvé par le fait que après les refus répétés de Gallimard de publier dans l'ordre L'automne à Pékin, L'herbe rouge et L'arrache-cœur, à partir de 51-52, il continue d'écrire. Bon, les romans, on lui prend plus, mais ça ne veut pas dire qu'il arrête d'écrire. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, il n'écrit pas pour... À la limite, je dirais qu'il n'écrit pas pour être publié, mais en même temps, il a quand même soif d'être reconnu, comme tous les écrivains, d'autant plus qu'avec L'écume des jours en 1946, il est passé d'un cheveu à côté d'un prix littéraire qui aurait certainement changé sa carrière. Alors, c'est assez curieux que la naissance de Sullivan arrive 2 mois après cet échec à ce fameux prix de la Pléiade. Pléiade qui n'a rien à voir avec l'édition de la Pléiade d'ailleurs. C'était un prix interne de chez Gallimard pour pousser de jeunes auteurs débutants. Sans doute que s'il avait eu le prix de la Pléiade, ça aurait changé sa carrière, mais peut-être pas tant que ça, en fait. Je crois qu'il aurait quand même écrit les romans qu'il avait à écrire, d'autant plus au moment où il écrit L'écume des jours, il est déjà en train de penser à L'automne à Pékin et à L'arrache-cœur, parce qu'il y a déjà des notes préparatoires qui datent de la même année. Donc voilà un bonhomme qui, en 46 à 26 ans, et qui a déjà 7-8 romans dans la tête, et qui, en 1946, écrit coup sur coup L'écume des jours, J'irai cracher sur vos tombes, L'automne à Pékin. Écrivain débutant, encore un effort pour être publié. Ouais. C'est un peu terrifiant quand même, je trouve. Hein, et je crois que ça fait peur aux gens. Ça dérange. Ouais. C'est trop, et c'est trop de savoir dans trop de domaines, ouais, particulièrement en France, où certainement à l'époque de Vian, j'espère moins aujourd'hui, on n'aime pas les gens qui font tout, et qui font tout bien. On aime bien les gens qui se spécialisent.
Bah, c'est l'expression « touche à tout ». Et qui, je crois, est assez souvent péjoratif.
Mais qui ne devrait pas l'être, justement. C'est-à-dire qu'on peut être touche-à-tout et bricoleur, mais on peut être, Vian le dit lui-même, on peut aimer beaucoup de choses et les faire en amateur éclairé ou en professionnel. Il y a cette petite phrase très amusante qui circule régulièrement, peut-être moins maintenant, qui est que certaines personnes se vantent d'être nulles en mathématiques. « Oh, moi, les maths, j'y connais rien. » Et Vian dit à ces gens-là, « Personnellement, si je n'y connaissais rien en mathématiques, d'abord, j'éviterais de le dire, parce que se présenter comme un imbécile, c'est pas la meilleure façon de se présenter. D'autre part, si je n'y connaissais rien en mathématiques, peut-être que j'essaierais de comprendre. » Donc, quoi dire à ça, hein? Donc, voilà l'attitude de Vian par rapport à cette espèce de mise en avant de son ignorance, en fait.
Maintenant, vous me troublez parce que moi, je suis véritablement nul en mathématiques. J'ai toujours été...
Oui, mais vous ne vous en vantez pas.
Non, je ne m'en vante pas, mais ça me revient sous le dé. Il y a même un professeur de mathématiques qui ne voulait même pas que je rentre dans la classe, ça ne servait à rien.
Oh là, c'était un méchant celui-là.
On parlait des lectures de Boris Vian, qui a évidemment, comme vous dites, tout lu, mais même les schnocks et tout ça. Mais si on tentait de le situer quand même dans une espèce de constellation, parce qu'il y a certains des écrivains d'avant lui, de bien longtemps avant, qui ont été pour lui, pas des modèles, mais de grandes inspirations.
Ah oui, bien sûr.
Alors, sa constellation avant lui.
J'ai une réponse très longue qui va durer environ 5 heures, mais je vais faire court, parce qu'on commence par Rabelais. Donc vous voyez, ça nous remet quand même 5 siècles en arrière. Et Vian était un grand lecteur de Rabelais, et il y a certainement en germe dans l'œuvre de Rabelais des flambeaux qu'il faut passer à d'autres, et en particulier ceux qui vont jouer sur la langue. Ce que je trouve de phénoménal, c'est que Vian, en fait, s'intéresse davantage aux notes bibliophiliques des éditions de Rabelais et au glossaire de Rabelais qu'à l'œuvre de Rabelais. Parce que dans le fond, l'histoire des 5 romans qui se suivent de Rabelais, le résumé, ça tient en un paragraphe. C'est truculent, c'est amusant, etc. C'est le grotesque, c'est le loufoque, c'est la bouffonnerie, avec quand même derrière un savoir médical assez poussé, entre parenthèses. Mais c'est pas ça qui fait, pour Vian, le sel de Rabelais. C'est les contrepétries, les jeux de langage, les néologismes, déjà la prise au pied de la lettre. Des dialogues comme par exemple dans le tiers livre, Trouillogan qui dit « Mettons le cas que je sois marié ». Panurge dit « Où le mettrons-nous ?» Quand on lit ça chez Rabelais, on croit déjà lire Boris Vian. Donc là, c'est plus qu'une inspiration. En fait, le mot constellation que vous avez utilisé me semble tout à fait approprié. Il y a une espèce de firmament comme ça qui se dessine, qui ensuite se catapulte jusqu'à Alfred Jarry, le créateur de la pataphysique. Alors lui qui est vraiment littérairement un père spirituel de Boris Vian et intellectuellement. Jarry qui lui aussi marie beaucoup de savoirs, en particulier les savoirs scientifiques qui l'intéressent. Il n'était pas ingénieur, mais il s'intéressait aux mathématiques, puisque d'ailleurs comme Vian, il fait un calcul de la surface de Dieu pour aboutir au résultat que Dieu est inétendu, et Vian essaye de limiter un peu en faisant en 1956 ou 7, je ne sais plus, le calcul numérique de Dieu par des méthodes simples et fausses, et il arrive après 7 pages d'équations au résultat Dieu est égal à 0. Donc vous voyez, ce sont des mathématiciens qui dans le fond touchent aussi les humanités. Vous allez me dire, irrespect de la religion peut-être, mais c'est pas franchement irreligieux en fait. C'est essayer de comprendre par l'absurde comment les choses se passent, ce qui est le principe de la pataphysique, qui est la réunion des paradoxes en fait, et la synthèse des contraires, la science des solutions imaginaires. Voilà. Et puis, un peu plus loin, Queneau. Queneau, grand frère de Vian, et c'est lui qui déclenche la carrière littéraire de Vian.
C'est lui qui va lire...
C'est lui qui lit Vercoquin et le Plancton, qui est lu par le voisin de Vian... Jean Rostand, qui n'est pas n'importe qui, et heureusement qu'il n'était pas dénué d'humour. D'ailleurs, Vian lui a très délicatement dédicacé Vercoquin et le Plancton, en ajoutant quand même à Jean Rostand... Avec mes excuses, c'est mignon. Mais ça, c'est le premier roman qui est publié chez Gallimard, ce qui fait que voilà, on est en 44-45 et Vian va déjà devenir un auteur Gallimard très vite. Donc c'est un début de consécration. Il y croit. Là, il se dit tiens, je n'écris plus pour ma famille et mes copains, j'écris pour des inconnus. Je peux devenir écrivain, je peux être reconnu. Et bien sûr, Gallimard est quand même le grand éditeur. À cette époque-là.
Parce qu'avant Vercoquin,
je sais pas où est Rolf là. Encore aujourd'hui, bien sûr. Pardon, Marc. c'est l'écrivain, l'éditeur chez qui tout le monde, enfin en France en tout cas, désire être publié.
Oui, c'est sûr. Mais avant Vercoquin, quand il a écrit Troubles dans les Andes. Ça, c'était vraiment pour les copains. Ça, je crois,
c'est posthume, c'est sorti seulement en 66.
C'est ça, exactement. Ouais. Et puis, je ne l'avais jamais lu, je l'ai lu la semaine dernière.
À la Pléiade?
Non, pas dans la Pléiade. Je l'ai lu dans... Non, c'est dans la Pléiade.
Oui.
Parce que, il y a la Pochothèque Vian, il y a Fayard Vian, et il y a maintenant la Pléiade. on sait plus où on le lit.
Oui, oui, oui. Oui.
Donc, Troupe dans les Andins, c'était complètement farfelu, complètement fou. Mais là, on a l'impression vraiment que c'était écrit pour les copains de Ville d'Avray.
Bah oui, d'autant plus qu'il y a des personnages qui sont ses amis, oui. Comme le major, par exemple.
Oui. Mais avec Vercoquin, avec le fait que Jean Rostand apporte le manuscrit à Raymond Queneau, que Raymond Queneau aime ça, que Sartre est mis au courant de ça, parce que finalement, Boris Vian va quand même rencontrer Sartre et Simone. Simone qui va trouver qui ne l'aimera pas trop au début, mais qui va changer d'idée, elle va comprendre.
Ouais, c'est
elle va
vrai.
Comprendre. Et donc là, je pense est-ce qu'il commence à avoir des ambitions littéraires, vraiment, à ce moment-là?
Oui, parce que...
Dans le portrait général, où il fait aussi autre chose, la musique, à tous les soirs, avec sa trompette et tout.
Malgré lui, donc à 26 ans, il rencontre Sartre et Beauvoir au début de 46, en fait au moment où les deux rentrent d'un long séjour aux États-Unis, parce qu'il prépare un numéro spécial des temps modernes sur l'Amérique, qui va sortir à l'automne, où Vian d'ailleurs va publier une de ses premières chroniques du menteur, donc à l'automne 46, je dis bien. Il se trouve donc à 26 ans dans la cour des grands. Chez ces grands écrivains, Sartre vient de créer les temps modernes en octobre 45. Il est en train de s'instituer, comme Bourdieu l'a très bien montré dans ses réflexions, comme le générateur du discours intellectuel dominant, en créant sa propre revue avec Merleau-Ponty et Beauvoir. Et Sartre, Vian, se trouve ami avec ces gens-là, et on l'aime. Et on l'aime tellement, d'ailleurs, que L'écume des jours, malgré l'échec du prix de la Pléiade, est quand même accepté par Gallimard, puisqu'il va sortir en collection blanche. Mais Sartre, comme une accolade bienveillante, publie quelques chapitres de L'écume des jours dans les temps modernes, à l'automne, je crois que c'est le numéro d'octobre 46, en évitant quand même soigneusement de mettre, parce qu'il ne publie pas tout, il choisit lui-même quelques chapitres, il ne met pas le chapitre où il y a le pastiche de la conférence de Partre,
Jean-Saul Partre,
qui arrive à dos d'éléphant, du haut de son houda, et qui écrase tout le monde, et qui exhibe des morceaux de vomi empaillé. Il évite quand même de mettre ce passage-là, mais quand même, et chose extraordinaire, il y a un professeur à la Sorbonne, avec un grand S, pas comme Vian, qui lit ces passages-là et les donne en études stylistiques à ses étudiants en 1946.
Ah oui.
Et il s'appelle Marouzeau. Et voilà un judicieux professeur qui avait quand même... Il avait tout compris.
Oui. Hein,
remarquable.
Et dans les temps modernes, Sartre avait publié Les fourmis aussi.
Oui, exact, oui. En juillet 46. Oui, exact.
Et c'est la fameuse chronique du menteur, mais qui ne tient pas très longtemps. Mais j'ai le goût de faire une petite digression, puisque nous sommes à Montréal, au Canada. C'est qu'on trouve dans une des chroniques du menteur que je relisais cette année, la seule référence à quelque chose de canadien. Il imagine un film, un cinéma, dans un texte chronique du menteur, il parle de cinéma, il imagine un film, dans lequel il y aurait différentes personnes, dont les jumelles Dionne.
Oui.
Les jumelles Dionne, parce que là, on est dans la fin des années 40.
Oui, c'est 46, 7, 8. Ouais,
c'est ça. Ouais. Et là, il fait la distribution. Alors, les cinq, il y avait Gaby Morlaix, il y avait Jeanne Fusier-Gire, toutes ces vieilles actrices-là, qui, selon Boris Vian, auraient pu interpréter au cinéma les jumelles Dionne. Fin de la parenthèse. Mais c'est un homme qui s'amusait de tout.
Oui, et d'ailleurs, la chronique du menteur qui s'appelle Impression d'Amérique, je crois,
oui.
Clin d'œil à Raymond Roussel, évidemment. Vian arrive avec son copain Alexandre Astruc en sous-marin à New York, et il va chercher André Breton, qui s'était exilé, donc le pape du surréalisme. Oui. Et en fait, il ne le trouve pas, sauf à Harlem, parce que Breton s'est mis du cirage pour se faire passer pour un noir, et il vit à Harlem, et il parle jive, il est complètement américanisé, et on trouve cette belle réflexion au milieu de ce passage, quand ils comprennent que c'est Breton, c'est écrit « Quelle perte pour le surréalisme
oui. !» Mais je crois savoir que les Sartre et Beauvoir et tout, on commençait à trouver ça un peu moins drôle, la chronique du menteur. Ils l'ont interrompu, je crois.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils proposent une rénovation des temps modernes.
Oui, bon. Ça ne plaît pas tellement à...
Vous me voyez venir. Où il dit la chronique. Bon, le numéro fait 160 pages. La chronique du menteur devrait en faire 150. On va laisser un paragraphe à Merleau-Ponty, 5 lignes à Simone de Beauvoir. et une page à Sartre, là. Bon, enfin. Il pousse le clou jusqu'au bout, quoi. Enfin, oui, il enfonce le clou jusqu'au bout et même plus loin. Mais il s'amuse. Oui.
Il y a une chose dont j'aimerais parler avant de parler de sa constellation qui le suit. Avant, je voudrais une chose qui est quand même importante. Son engagement, le mot est pas juste, mais le côté politique de Boris Vian. Il a l'air de se moquer de tout. Dans ses romans, c'est pas tellement là que ça se passe, mais dans ses chansons ou dans ses pièces de théâtre, il a l'air de rien, l'air de jouer le comique. Il y a quelque chose d'assez fondamental. Il y a évidemment l'antimilitarisme, mais il y a plus que ça. Comment vous voyez le Borisien politique, la façon dont
ben, on hésite à dire qu'il est apolitique ou qu'il est anarchique.
Ouais, ouais.
Dire que c'est sûr qu'il ne peut pas s'engager politiquement puisque il veut garder sa liberté. Ouais. Donc il ne peut pas faire du militantisme, il ne peut pas être séduit par le Parti communiste, par exemple, qui est très puissant après la guerre en France. Ça l'intéresse pas. En fait, il a peur, enfin, il se méfie de la politique. Pour lui, la politique, c'est une perte de temps. Faut dire que durant toute sa vie avec la 4ème République, il avait un joli modèle de perte de temps, mais je sais pas si ça s'est beaucoup amélioré depuis, mais les gouvernements changent tous les ans ou tous les deux ans. Pour lui, la solution, c'est technique. La solution est toujours dans la technique et pas dans la politique. La politique, c'est de l'atermoiement, c'est du verbiage, c'est de la perte de temps. Donc, il ne peut pas s'engager politiquement. En revanche, c'est vrai que dans certains de ses écrits, il s'engage. Et bon, bien entendu, il n'a pas pu s'engager pendant la guerre à cause de sa maladie cardiaque, donc il a été d'office exempté de porter les armes. Mais quand, par exemple, il chante Le Déserteur, dont on a entendu une superbe interprétation tout à l'heure, on est en 1950, fin 54-55, la guerre d'Indochine est à peine finie, celle d'Algérie va commencer. Il prend des risques, et il a pris des risques, d'autant plus qu'il a été parfois expulsé de scène manu militari, sa chanson a été interdite d'antenne, donc c'est quand même des gestes politiques, dans le fond.
Tout à fait. Hein?
Ça, c'est des prises de position politiques, et même assez courageuses, je dirais. C'est un peu la même chose que Gainsbourg fera 20 ans plus tard, où il va chanter la Marseillaise en reggae, ouais. Et il va y avoir un bataillon de parachutistes qui sera là, et puis ça va mal finir, pas trop mal, mais c'est quand même des prises de position politiques, dans le fond. Hein.
Ou quand Genet fait créer les paravents, dans ces mêmes années-là, un peu après la mort de Boris Vian.
Oui.
Là, c'est vraiment les CRS qui doivent protéger le théâtre.
Exact, oui.
Mais Boris le faisait de façon, comment dirais-je, plus élégante
De façon plus poétique. C'est-à-dire que Vian prend la réalité et il la déforme légèrement et ça devient une réalité poétique. Comme Cocteau l'a fait. Sauf que Cocteau, lui, il est allé à fond dans le cinéma, par exemple, ce que Vian n'a pas fait. Même s'il a écrit une trentaine de scénarios, Vian n'est pas passé au cinéma. Mais il aurait pu, à mon avis, le faire. C'est ce fameux avant-propos dans L'écume des jours, les choses sont décrites selon une atmosphère biaise et chauffée qui suit un plan régulièrement ondulé, etc. Donc la réalité est transformée en réalité poétique. Et je crois que son engagement politique, il, dans ses chansons, ressort de cette manière-là aussi. Parce que Le Déserteur, qu'on vient d'entendre, bien sûr qu'on peut l'analyser comme chanson antimilitariste au premier degré, mais c'est aussi un poème qui est écrit en hémistiche, c'est des vers de 6 syllabes, parfaitement réglés, avec quand même une dimension poétique très forte aussi.
Alors que dans la Java des bombes atomiques, là c'est un peu plus direct.
C'est autre chose, là, oui.
L'incitation à déposer des bombes aux bons endroits.
Seulement si elles n'ont un rayon d'action de 3,50 m.
Mais il y a certaines périodes de questions dans certains parlements où... Une bombe de cette sorte aurait pu avoir des effets historiques, mais enfin, c'est autre chose. Il meurt jeune, il meurt à 39 ans, malheureusement. Tout. Il a toujours dit qu'il ne se rendrait pas à 40 ans, parce que, comme vous disiez, il avait des problèmes de cœur. C'est sûr que son œuvre a survécu, elle a même été découverte après sa mort. Mais est-ce qu'il a des... d'après vous, on parlait de la constellation qu'il précède, est-ce qu'il y en a une est-ce qu'il a des successeurs? Est-ce qu'il y a une espèce d'héritage de Boris Vian? J'ai quelques idées, mais je vous laisse...
Il n'a pas d'imitateur, en tout cas. Il n'y a pas d'émule de Boris Vian. Ça serait difficile à concevoir. Certainement qu'il il a dû certainement inspirer des gens. Par exemple, dans les exemplaires d'hommages qu'on a envoyés de l'édition de la Pléiade, on en a envoyé un, bien entendu, à Paul Fournel, qui est président de l'Oulipo, oui, puisqu'il y a une filiation. Vrai. Alors, du côté de l'Oulipo, il y aurait une suite, mais évidemment pas des imitateurs, puisque l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, est créé par Queneau et Le Lyonnais en 1960, un an après la mort de Vian. Et Paul Fournel, qui m'a remercié, me dit ceci, que je trouve de très touchant, me dit que il a bien sûr lu Vian dans sa jeunesse, et c'est Vian qui l'a amené à lire et à découvrir Queneau et les autres. Donc il a commencé par Vian, et donc voilà quelqu'un qui est à l'Oulipo, donc qui est imprégné de l'esprit de Queneau et de Le Lyonnais et des anciens pataphysiciens. Et puis il me dit aussi ceci, après avoir déclaré donc le côté déclencheur chez lui de Vian, en fait, c'est-à-dire que après avoir découvert Queneau et les autres, il s'est mis à écrire, hein, puisque Paul Fournel est aussi un écrivain, c'est que il avait un peu laissé de côté Vian, et il avait des velléités de le relire, mais sans plus. Maintenant qu'il est à la Pléiade, il a envie de le relire. C'est beau, ça, je trouve.
Et comme on est à Montréal, comme je me répète encore, et au Québec et au Canada, il y a quand même Région du Charme,
oui,
qui est publié chez Gallimard, je crois, pour certains, sous certains aspects, il y a une parenté.
Oui, et il y a même plus que ça, il y a même un intertexte, puisque dans au moins dans La Vallée des Avalées et dans Le Nez qui voque, il y a des personnages qui lisent Vian, qui écoutent des chansons de Vian. Il y a une parenté. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est peut-être ici qui va faire un beau travail de croisement entre Ducharme et Boris Vian. Il y a des choses à faire qui n'ont pas été faites. Oui, il y aurait aussi des choses à faire sur la réception de Vian au Québec, qui mérite aussi. Parce que Ducharme n'est pas le seul. Chez Poulain aussi, il y a des personnages qui lisent, Vian. Ou qui lisent L'Arrache-Cœur, je me souviens. Donc,
c'est la génération qu'il a découvert dans les années 60.
Exactement, exactement. Et là, il y aurait quelque chose à faire, quelques sujets de doctorat. Pour les gens qui se demandent quoi faire.
Ouais, c'est ça.
Écrivez-moi.
Du côté de la musique, de la chanson, je pense qu'on peut dire qu'ils se sont connus un peu, par exemple... Gainsbourg, quand il écrit Le Point Sonneur des Lilas en 57-58, Boris Vian doit l'entendre, doit le connaître.
Boris Vian est le premier à avoir écrit quelque chose sur Gainsbourg.
Ah bon ? Ah, d'accord.
Et Gainsbourg a dit et répété que c'est grâce à Vian qu'il est devenu chanteur. Donc il y a une filiation. Ouais. Ah oui, non, parce que...
Moi, je la sentais comme ça, c'est sûr. Elle est,
ah oui, c'est certain, oui, c'est certain. Oui, oui.
Il y a quelque chose. Et je voudrais dire aussi, du côté de Coluche...
Ouais, peut-être aussi. Ouais. Bah, c'est l'esprit iconoclaste, l'esprit potache, oui, peut-être.
Complet. Et même ici, je le disais tout à l'heure à Stanley Péard, du côté de certaines chansons de Robert Charlebois,
oui,
comme par exemple Fumons Chou, qui est vraiment, c'est du... là aussi, Robert Charlebois, c'est une espèce d'héritage revendiqué un peu de chez Boris Vian. Mm. Ce qui me ramène à dire que c'est ici, je pense que son impact a été vraiment plus par la chanson. Beaucoup plus que par le... Comme je vous disais, le théâtre, on l'a presque pas monté, puis bon, il a été un peu, pas pris de court, mais dépassé par des œuvres majeures qui arrivaient au même moment dans un théâtre qu'on appelait, soi-disant, de l'absurde et tout. Et Ionesco ramassait tout et tout.
Oui.
Mais je me demande si on ne va pas redécouvrir Boris Vian son théâtre.
Oui, son théâtre.
Parce que
ouais.
Les Bâtisseurs d'Empire, ouais. C'est un chef-d'œuvre. C'est une grande pièce.
Oui, ouais, je crois que c'est son chef-d'œuvre, en fait, dramatique.
Ouais. Aujourd'hui, il entre dans la Pléiade. Dans cette maison qui lui a refusé 3, 4, 5 romans, mais qui avait été à la base du départ de sa carrière littéraire et tout. Alors, comment s'est décidé le fait de faire entrer Boris Vian dans la Pléiade? Et avant de vous laisser là-dessus, je cite une entrevue que Hugues Paddy, le directeur de la Pléiade, donnait récemment à Match, où il disait « Avec Boris Vian, la chose pouvait sembler risquée. » Que veut-il dire et quels sont les éléments qui ont joué pour quand même décider qu'il entre au palace de la Pléiade?
Ben, y a plusieurs réponses à cette question. Je dirais que la première, c'est que le fait que Vian rentre à la Pléiade est pour moi de l'ordre d'une évidence, puisqu'il va rejoindre une famille qui est en train de se constituer, qui commence par Rabelais, comme je l'ai déjà mentionné, qui passe ensuite par Jarry, Queneau, Prévert, et il manquait Vian, donc Vian est là. Il en manque encore d'autres, comme par exemple Michel Léris, qui va sans doute rentrer à la Pléiade un jour.
Desnos
peut-être. Pérec, qui va bientôt aller à la Pléiade, il est déjà programmé. Donc ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, sans rentrer dans des détails de cuisine éditoriale, la Pléiade, on en parle depuis 14-15 ans. Mais il y a des enjeux d'éditeurs, des enjeux d'héritage, des enjeux d'ayant droit qui font que parfois les choses ne sont pas aussi simples qu'on voudrait qu'elles soient. Ce qui a donné lieu d'ailleurs aux œuvres complètes chez Fayard, que vous avez mentionné tout à l'heure, qui ont été publiées entre 1999 et 2003. Donc ça a un peu retardé la Pléiade, mais la Pléiade devait arriver. Il n'a jamais été question de faire les œuvres complètes en Pléiade. Donc pour des raisons éditoriales, peut-être pour des raisons commerciales, puisqu'il faut que les volumes se vendent, et à la Pléiade, ils ont sans doute estimé que les romans seraient plus porteurs, comme on dit. Donc romans, œuvres romanesques, donc nouvelles écrites en prose, c'est pour ça qu'on a écarté la poésie. En revanche, il n'est pas exclu qu'un jour, il y ait un volume théâtre, puisque Vian a écrit 11 pièces de théâtre, ce qui n'est pas rien, ce qui pourrait faire un joli volume. Même si c'est pas prévu tout de suite, ça peut très bien se faire un jour. Ce qui est assez remarquable, et j'aimerais le mentionner, c'est que la Pléiade est sortie, enfin la Pléiade Boris Vian est sortie à Paris le 14 octobre, pour être précis. Moins de 2 semaines plus tard, un deuxième tirage était en route, pour ne pas être en rupture de stock pour les fêtes, et début 2011, un troisième tirage est en marche, ce qui est assez exceptionnel pour la Pléiade. C'est des livres qui coûtent un petit peu cher, vous l'avez sans doute remarqué, mais ça veut dire qu'il y a à la fois un lectorat Pléiade et il y a un lectorat Boris Vian aussi, dont je suis sûr que de nombreux adeptes se trouvent au sous-sol en ce moment. Donc tout ceci, évidemment, forme une combinaison heureuse pour la postérité de Boris Vian. Donc c'est évident que Vian devait aller à la Pléiade. Vian est un écrivain qui est devenu très vite classique, ne serait-ce qu'au niveau de ses ventes. Sa gloire est entièrement posthume, sa gloire littéraire, on le sait, mais à partir des années 70, il est déjà considéré comme un classique. Donc aboutissement plus ou moins naturel, je crois. Alors c'est vrai que c'est un peu ironique qu'il revienne chez Gallimard par la grande porte, après y avoir été refusé pour ses 3 derniers romans, signés de son nom, c'est-à-dire à l'exclusion des Vernon Sullivan.
Dans la présentation, dans l'introduction que vous faites dans le tome 1, vous dites quand même, vous parlez de l'œuvre très diversifiée, et vous dites quand même, vous écrivez qu'elle est l'objet d'une ignorance encore quand même à peu près totale. Je comprends très bien quand vous dites qu'il y avait une évidence pour faire entrer Vian dans la Pléiade, mais il y a aussi cette évidence que Vian n'est pas aussi connu aujourd'hui qu'il a pu l'être dans les années, la décennie suivant sa mort et tout. Alors, quand vous dites dans l'introduction qu'il y a encore une espèce d'ignorance autour de lui, est-ce qu'à ce moment-là, l'édition Pléiade est à la fois une consécration et une présentation de l'œuvre du personnage et surtout de l'écrivain?
Ben oui, c'est les deux. C'est-à-dire que de Vian, on connaît bien sûr L'écume des jours, oui. On connaît Le déserteur et quelques chansons, oui. On connaît J'irai cracher sur vos tombes, ça c'est la tarte à la crème de Vian, on connaît peut-être L'herbe rouge et L'arrache-cœur, mais
ça cache la forêt,
voilà, on connaît mal les trois autres Sullivan, on connaît à peu près pas ses scénarios, on connaît un petit peu sa poésie, je ne sais pas. On connaît mal ses chroniques de jazz, on connaît à peu près pas ses écrits théoriques, et il y en a. Son théâtre, mis à part L'écarissage pour tous, Le goûter des généraux, Le dernier des métiers et Les bâtisseurs d'empire, est à peu près inconnu, ce n'est que 4 pièces sur 11. Donc l'œuvre de Vian est encore largement inconnue. En fait, il est exactement dans le même paradoxe qu'Alfred Jarry, son étoile au firmament, oui. Dont tout le monde connaît Hubert Roy, et c'est tout, oui. Alors que Jarry est aussi un grand poète et un romancier symboliste qui a écrit des tas de romans comme La Dragonne, le roman d'un déserteur, qui sont inconnus, oui. Donc il y a ce même paradoxe, en fait, oui. Donc ce n'est pas une œuvre méconnue, c'est une œuvre inconnue pour la plupart, oui. Alors pour répondre à la deuxième partie de votre question, il est très possible qu'avec la Pléiade de nouveaux lecteurs, des nouvelles générations prennent connaissance de l'œuvre de Vian, mais évidemment sans les a priori des générations précédentes, ouais. Qu'il l'avait plus ou moins occulté, ou pour en le taxant d'amuseur public ou d'écrivain pour ados boutonneux ou ce genre de choses, et qui vont donc prendre son œuvre littéraire un peu au sérieux, même si Vian lui-même ne veut pas se prendre au sérieux ou jouer le rôle des grands, ça ne veut pas dire que son œuvre n'est pas sérieuse. Oui. Hein, c'est un paradoxe, mais il le dit lui-même, on peut très bien faire les choses sérieusement sans vouloir prétendre être sérieux. Donc, c'est pas la même chose. J'espère avoir répondu à votre question.
Oui, mais maintenant, je vous demanderai, par exemple, sur le plan un peu plus technique, de quelle façon vous avez procédé pour ce travail assez gigantesque à partir de une œuvre si diversifiée et vous avez été trois à faire le travail pour la Pléiade. Habituellement, on croit comprendre que pour des Pléiades, bon, quelqu'un prend un aspect, ne fait que fouiller celui-là, un autre et tout. Je crois savoir que c'est pas comme ça que vous avez fonctionné.
Oui, d'ailleurs, on a fait un peu peur chez Gallimard au début, puisque on s'était mis d'accord, notre équipe, d'écrire tout ensemble. C'est-à-dire, on a fait tout l'appareil critique, mis à part l'introduction générale que j'ai écrite et signée. On a que mes collaborateurs ont évidemment lu 30 fois comme moi, mais on a écrit tout à trois mains.
Ah oui.
Et la raison pour laquelle c'était possible, c'est parce que y a deux raisons. D'abord, on a la même passion pour l'œuvre de Vian, et à peu près le même niveau de connaissance, c'est important. Et surtout, la deuxième raison, c'est que aucun de nous trois n'occupe un même territoire. Donc, il n'y a aucune jalousie, aucune mégalomanie de la part d'un de nous trois. Ce qui fait que, bon, moi, je suis le seul universitaire, en fait, dans l'équipe. Donc, on m'a institué directeur de facto. François Roulman est bibliophile et marchand de livres anciens, spécialiste de la musique du XXe siècle. Si vous avez besoin de partitions signées d'Erit Satie, c'est lui qu'il faut aller voir. Et Christelle Gonzalo est spécialiste de la postérité de Vian, en particulier pendant la période 59-99. Donc on a chacun nos spécialités, et elle a une formation de documentaliste. Donc on n'a jamais été dans des risques de protection de territoire ou ce genre de choses. Et alors en général, ce qui se passait, c'est qu'on s'est fait un échéancier, bien entendu, on a fait un ordre de travail, et puis en général, moi j'écrivais le squelette parce que j'écris un peu plus vite que les autres, et puis venaient se greffer leurs parties, avec éventuellement des spécialisations, mais chacun avait le droit de modifier ce que l'autre écrivait à tout moment, à tout endroit. Et puis on faisait des réunions de travail, ce qui fait que chaque notice à chaque roman individuel est souvent l'objet de 5 ou 6 réécritures. Ensuite, il y a l'équipe Gallimard qui passe derrière et qui passe au rouleau compresseur. Là, des fois, ça fait très mal, mais on apprend à écrire aussi, hein. Il faut rester modeste. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est peut-être assez unique, en fait. Aucune des notices n'est signée d'un des collaborateurs, ouais. Puisque, comme vous l'avez dit, le scénario classique, c'est que, bon, toi, tu fais L'écume des jours, moi, je vais faire L'arrache-cœur, voilà. En fait, c'est pas mal non plus de travailler comme ça. Le danger, c'est que le directeur doit, après tout, mettre ensemble, et il peut y avoir de mauvaises surprises. On m'a déjà indiqué que dans certaines éditions, le directeur ou la directrice d'édition devait pratiquement tout réécrire. Donc, perte de temps, évidemment. Donc, nous, on n'a pas procédé comme ça. Alors, ils nous ont bien mis en garde au début, chez Gallimard, Hugues Pradier notamment, très, très poliment, en nous demandant si on était sûr de vouloir procéder ainsi. Et on leur a dit, mais oui, nous allons faire comme ça, vous verrez, ça marchera. Et pari tenu, ça a marché. Tant mieux pour nous. C'est peut-être aussi pas complètement étranger à l'esprit de Boris Vian.
Donc ça faisait quand même plusieurs années qu'on y pensait. Et lorsque on a donné l'autorisation de faire ce travail, à partir de ce moment-là, vous avez passé quelques années
Ça a été officialisé autour de Noël 2005. Et puis on a commencé nos premières réunions à l'été 2006. Et puis on a eu des contrats, bien entendu, et puis on s'est mis au travail.
Même si ce n'est pas un travail d'ordre biographique, est-ce que vous avez quand même été amené à rencontrer des gens qui l'avaient connu?
Mais on l'avait déjà fait, ça, en fait.
Vous l'aviez fait, bon.
Mais bonne question, tout de même. Il y a quelque chose d'assez remarquable. C'est le fait que Michel Vian vit toujours. Michel, c'est la première femme de Boris. C'est une dame qui a 90 ans, puisque, comme Boris, elle est née en 1920. Elle est bien fatiguée, bien usée, mais elle a un cerveau qui marche encore à 100 à l'heure. Elle vit à Paris, boulevard Montparnasse. Elle est venue d'ailleurs au lancement qu'on a fait chez Gallimard en novembre, il y a 3 semaines. Et c'était assez, assez exceptionnel. Donc elle, on lui a beaucoup parlé. On la connaissait. Moi, je la connais depuis 25-30 ans. Elle a toujours été très bienveillante à l'égard des travaux qu'on faisait. Et elle nous a été d'un support magnifique. Mais on a aussi rencontré Claude Abadie. On a rencontré d'autres gens de la famille. Bien entendu.
Avez-vous rencontré la deuxième femme, Ursula?
Oui,
qui malheureusement est morte cette année.
Qui est décédée en janvier cette année. Oui, bien entendu. On l'a rencontrée aussi, mais elle, ça l'intéressait moins. Elle était moins dans le coup de cette édition. Mais ces gens-là nous ont aidés, mais on les avait beaucoup rencontrés déjà. Ouais. Alors, il y a quand même une part biographique, puisque vous savez que dans le protocole de la Pléiade, il y a une chronologie. Oui. Chaque volume commence par une chronologie. Il faut quand même vous dire que la chronologie du premier volume de Boris Vian commence à l'année 1848. Donc, Madame Bovary n'était même pas encore publiée, parce que c'est la naissance de l'arrière-grand-père de Boris Vian. Pourquoi on commence par lui? Parce que c'est lui qui va faire que le grand-père de Vian va devenir un homme excessivement riche, qui va être ferronnier d'art. Et qui va d'ailleurs à un moment vivre à l'hôtel Salé à Paris, qui abrite aujourd'hui le musée Picasso. C'est pour vous donner un peu un ordre de l'opulence de la famille Vian. Et ce qui fait que le père de Boris Vian, Paul Vian, va vivre comme un rentier jusqu'au crash boursier de 1929. Donc l'enfance...
Il n'a exercé aucun métier.
Exactement. Il ne savait rien faire. Il n'avait pas besoin. Il vivait de ses rentes. Il vivait des rentes de papa.
Et c'est pour ça que la vie des enfants Vian à Ville d'Avray était une espèce d'enfance idyllique.
Oui, c'est comme un conte de fées. Alors, des parents très excentriques, en même temps, bon, issus de la bourgeoisie française riche, mais pas traditionnaliste à l'extrême. Le père est naturiste, peut-être un petit peu homosexuel. La mère est mélomane. Il y a quand même 4 des enfants Vian qui portent des prénoms qui sont issus des grands opéras. Hein, Boris, Lélio, Dudu, enfin, je veux dire. C'est assez... Et donc, le Vian, lui, Boris, il est baigné dans cette atmosphère non conventionnelle, très créatrice aussi, hein, on joue en famille.
Mais ce qui est drôle, c'est avec le crash de 29, quand Paul Vian perd toute sa fortune, j'ai lu dans différentes biographies, c'est Paul Vian qui dit « Bon, il faudrait peut-être que je travaille ». Et qui ne sait pas trop quoi faire, et qui se trouve des...
Oui, il se trouve dans la situation de Colin dans L'écume des jours. Il faut que je travaille, j'ai plus de doublezon.
Et puis ils sont obligés de laisser la grande maison qu'ils habitent pour la louer. Et eux vont habiter dans la maison du gardien.
Et ils la louent à la famille Menouin.
Et il va jouer aux échecs avec Yehudi Menouin dans son enfance, son adolescence. Mais un terrible coup de revolver en novembre 44, le père, Paul Vian, tué d'une balle dans la tête, la nuit, par des cambrioleurs.
On pense que c'est sans doute un règlement de compte qui est lié à l'époque à l'époque de la libération des règlements de compte.
Qu'est-ce que vous en pensez
On ne sait pas trop, mais il y a sans doute une histoire de marché noir, de collaboration, de résistance.
Officiellement, on n'a jamais su.
Officiellement, c'était une balle perdue. Mais il y a peut-être un secret, mais bon, il est enterré depuis longtemps.
Parce que d'abord, Paul Vian, je crois pas, faisait pas de résistance, il n'était pas dans la
non,
résistance.
Non, peut-être plutôt l'autre chose, mais, ouais, mais on n'est pas sûr, bon, on ne sait pas. C'est vrai mais ça a été un choc énorme pour lui, c'est sûr. Oui. Il a 24 ans, il est déjà père de famille, il est déjà marié depuis 21. Oui. Mais un choc énorme parce qu'il perd non seulement son père, mais il perd un ami aussi. Hein, il a des relations presque fraternelles avec son père. Oui. En fait. Oui. Il y a une connivence extraordinaire et il perd ça du jour au lendemain, c'est terrible.
Oui. Et ce qui fait aussi, on terminera peut-être là-dessus, qu'il y a toujours aussi dans son œuvre, quelque part, venant du fait qu'évidemment il avait un problème cardiaque, l'assassinat de son père comme ça, brutalement, sans lui, il est quand même très jeune. Et donc, dans son œuvre, à partir de là, il y a toujours un peu la présence de la mort. Hein, toujours,
oui, il y a la présence de la mort dans toute son œuvre. Oui. Mais je crois que c'est aussi le fait que Vian est né 2 ans après la Première Guerre mondiale et qu'il a 19 ans quand la Seconde éclate. Ouais. Donc, il est quand même, il fait partie d'une génération pas très gâtée à ce niveau-là. Ouais. Hein, et le ressentiment que ces gens-là ont par rapport à la génération de leurs parents qui leur avaient promis qu'il n'y aurait plus jamais de boucherie, ouais, et qu'on remet ça, évidemment, ça peut poser des problèmes existentiels assez graves. Et de la même manière, Vian n'écrit presque pas sur la guerre.
Non.
Le seul texte de fiction qui soit à proprement parler un récit de guerre, ça serait Les Fourmis, la nouvelle Les Fourmis. Oui. Mais pourtant, la guerre, elle est toujours en sous-plan partout.
L'Écarissage pour tous, c'est un peu aussi...
Oui, mais ça c'est une satire, oui, donc c'est autre chose. Mais oui, bien sûr.
Les Fourmis, c'est Le Débarquement.
Voilà, qui est aussi un texte satirique. Mais même dans L'écume des jours, qui est quand même le roman Fleur bleue, hein, c'est Vian le dit lui-même, avec le rationnement, la dilapidation de l'argent, cette maladie étrange qui est le nénuphar de Chloé, il y a quand même quelque chose de sournois là-dedans qui fait penser à la guerre.
Oui.
Qui est là, mais sans être là. Oui. Là, on est dans le Unheimlich freudien, là. Oui. C'est l'inquiétante étrangeté.
Oui. Mm. Et c'est beau aussi cette image du nénuphar représentant la mort, enfin le cancer.
Oui, oui. C'est pas le cancer, c'est le nénuphar.
C'est le nénuphar.
Oui, oui, oui. C'est une nouvelle maladie infectieuse qui existe dans la fiction de Vian. Et c'est vrai qu'on peut penser cancer, tuberculose, mais non, c'est le nénuphar.
Il ne se guérit pas.
C'est comme le snobisme, c'est un microbe hein, pour Vian, donc c'est aussi une pathologie, en fait.
Oui, tout à fait.
N'est-ce pas, docteur?
Eh bien, Marc Lapran, je vous remercie.
Merci, Robert Lévesque.
De tout cela.